L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
L'actualité judiciaire ce matin puisque vous recevez le procureur de la République.
Oui, Yves Dupas, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le point sur plusieurs affaires en cours. On va commencer par l'affaire de la mort accidentelle de cet homme attaqué par un requin. Il y a eu l'autopsie qui a été pratiquée. On l'a entendu dans les journaux d'information. Il y a plusieurs hypothèses sur la mort de cet homme, savoir s'il était mort avant ou pas. L'enquête en est où aujourd'hui? Elle va être refermée?
Alors l'enquête en recherche des causes de la mort est quasiment achevée. Hein. Les constatations techniques, les constatations médico-légales ont confirmé l'attaque par ce requin tigre. Au niveau notamment du poignet, enfin de l'avant-bras de la victime, avec ces deux hypothèses, une hypothèse donc en tout cas d'un décès très clairement lié à une noyade, mais dans une première hypothèse, dans une panique conduisant à cette noyade, ou le cas échéant, par un malaise, qui serait survenu juste antérieurement, avant cette attaque du requin. Mais en tout état de cause, il y a un lien de causalité, hein, très clairement, entre le décès et cette attaque du requin, avec un certain nombre de morsures qui sont post-mortem, hein, qui ont été relevées comme étant post-mortem par les médecins légistes.
Est-ce que l'autopsie a permis de déterminer la nature du requin qui a attaqué cet homme-là?
Alors, le spécialiste en squale nous indique qu'il s'agit d'un requin tigre, hein, d'une taille de 3 mètres au moins. L'enquête n'a pas permis, en l'absence de témoins directs de cette scène d'attaque, de déterminer finalement les circonstances exactes, hein, de cette attaque. Il faut bien retenir cet élément quand
même. On n'en saura pas forcément plus.
On n'en saura pas nécessairement plus, effectivement.
Monsieur le procureur, depuis qu'on vous a reçu la dernière fois, il y a eu dans l'actualité la publication d'un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, hein, sur les émeutes de mai 2024. Un rapport que vous avez lu, évidemment, et qui vous a fait réagir. Vous contestez une partie des faits qui sont dans ce rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ?
Je conteste fermement, hein, certaines observations, certaines critiques de la Commission nationale des droits de l'homme sur le manque d'impartialité du parquet, hein, dans le traitement judiciaire des procédures. Ce sont des critiques qui ne me semblent pas fondées, qui me semblent tout à fait injustes. Au vu du travail réalisé par toute l'équipe du parquet, hein, une équipe de 10 magistrats, où est le manque d'impartialité quand le parquet a classé sans suite 20% des procédures des émeutiers pour éléments à charge insuffisants? Où est le manque d'impartialité du parquet quand le parquet a ouvert un certain nombre d'informations judiciaires visant des crimes ou délits commis sur des personnes kanak dans ce contexte insurrectionnel? Je pense bien évidemment au couple décédé à Ducos, aux jeunes morts à la vallée du Tir. Je pense également à l'usage des armes, donc au col de la pirogue. Nous avons ouvert une information judiciaire, hein, pour que le débat judiciaire se poursuive. Et puis, le système judiciaire, il comprend un principe des voies de recours. Il comprend un principe des voies de recours avec des possibilités de contester des classements sans suite, des possibilités de citer directement un mis en cause devant le tribunal, de solliciter l'ouverture d'une information judiciaire par une constitution de partie civile auprès d'un juge d'instruction. Je n'ai pas noté d'évolution significative par rapport à ces voies de recours qui viendraient signer un manque d'impartialité. Notre taux de relax reste faible et constant depuis un certain nombre d'années. On est en dessous de 4%. Donc vous voyez, ce sont des éléments objectifs qui m'amènent à dire quand même que sur cette crise insurrectionnelle, nous avons un narratif aveuglant et inquiétant qui est alimenté par la désinformation. Et le dernier signe de ce narratif inquiétant et aveuglant, ce sont ces commentaires sur les représentants de la Ligue des droits de l'homme territoriale de Nouvelle-Calédonie, sur leur manque d'objectivité, par des commentateurs dans une indécence significative.
La Commission des droits de l'homme en Calédonie a critiqué aussi ce rapport.
Hein. Tout à fait. Je pense justement, effectivement, aux membres territoriaux de la Ligue des droits de l'homme qui ont une approche mesurée, objective, nuancée, qui correspond effectivement à la réalité de ces événements.
Est-ce que la Commission nationale vous avait consulté avant de publier son rapport ? Est-ce que vous
J'ai été entendu par des membres de cette Commission nationale et j'ai effectivement fait état du travail mené par le parquet dans le traitement de ces milliers de procédures.
Et vous ne retrouvez pas les éléments que vous avez donnés dans le rapport ?
Je ne les ai pas forcément vus, effectivement, dans les observations et les commentaires qui ont été apportés.
Alors, monsieur le procureur, vous avez rendu public hier, on en a parlé dans le journal ce matin, une enquête ouverte à l'encontre de deux policiers nationaux qui seront convoqués devant le tribunal correctionnel pour des faits qui remontent au 23 novembre 2025, une interpellation dans le quartier de Magenta d'un mineur qui s'est pas bien passé. Comment les faits ont été révélés et où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'enquête ?
Alors donc, ces deux policiers ont fait l'objet d'une convocation par procès-verbal à l'issue de leur garde à vue, présentée au parquet, avec un placement sous contrôle judiciaire pour une audience prévue en juillet prochain. Si vous voulez, on ne quitte pas le terrain de l'impartialité. Cette procédure, elle démontre que le parquet conduit l'action publique avec objectivité, en toute impartialité, dans des poursuites qui visent tous les auteurs présumés des crimes ou délits, des infractions, très clairement, quelle que soit la qualité de la personne mise en cause. Ce sont des faits très exceptionnels. Très limités. Je tiens à dire qu'ils ne viennent pas entamer toute la confiance que nous avons dans le professionnalisme, le sens du devoir des personnels de la direction territoriale de la police nationale. Mais effectivement, vous savez, chaque administration a quelques brebis égarées. La justice doit passer
même
pour
si
tout
c'est,
le monde.
Même si c'est une affaire sensible.
La justice doit passer pour tout le monde. Quand il s'est agi effectivement de poursuivre un certain nombre d'élus pour des infractions, des atteintes à la probité, eh bien le parquet était présent sur ce terrain du respect de l'état de droit et des poursuites effectivement cohérentes par rapport à cet état de droit.
Quelle est la suite des procédures pour ces deux policiers ?
Eh bien, le tribunal va examiner les chefs d'infraction qui ont été relevés. Alors, ces policiers sont placés sous contrôle judiciaire. Ils bénéficient, en tout cas actuellement, de la présomption d'innocence, je tiens à le rappeler. Mais le tribunal tranchera, donc, en juillet prochain, sur leur éventuelle culpabilité dans ces faits.
Monsieur le procureur, il y a un dernier sujet sur lequel on voulait vous entendre ce matin, c'est les menaces numériques, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas les menaces à l'encontre d'élus qui sont proférées notamment sur les réseaux sociaux, sur lesquels vous êtes toujours vigilant. Il y a des signalements réguliers qui viennent et là aussi il y a des poursuites qui sont engagées.
Oui, nous sommes très vigilants sur ce périmètre de la haine en ligne, de la provocation à la violence, des menaces sur les élus. Toute une série de procédures ont été menées, visant des faits de menaces d'intimidation sur des élus qui appartiennent à différents partis politiques, Monsieur Tutugoro, Monsieur Metzdorf, Monsieur Chibaou, député, Madame Bakès et d'autres. Ce sont des faits inacceptables dans le fonctionnement de la démocratie. Donc, si j'ai un conseil à donner à un certain nombre d'internautes qui aiment cracher leur colère en étant devant l'écran, eh bien, qu'ils se méfient, parce que nous avons au niveau de la police nationale comme de la gendarmerie nationale, des moyens, des services d'enquête qui déploient effectivement des investigations pour les identifier et puis pour aller les interpeller.
Parce que c'est pénalement condamnable ?
Bien évidemment, nous avons des délits qui sont punis jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, des amendes de 75 000 euros. Ce sont des délits graves finalement viennent entraver le fonctionnement des institutions démocratiques et bien évidemment aussi développe une animosité finalement l'ambiance générale du territoire, dans le climat social qui n'est pas acceptable. Ces appels à la haine, ces appels à la violence ne sont pas tolérables.
Est-ce qu'il y a déjà eu des condamnations pour des faits de cette nature ?
Oui, notre pratique, c'est d'organiser un déferrement à l'issue de la garde à vue. Souvent, ce sont des faits qui sont reconnus au regard de la démonstration objective des éléments à charge. Effectivement, souvent, ce sont un certain nombre de personnes qui n'ont aucun antécédent judiciaire. Alors, effectivement, ce sont des peines de jour amende, avec des jours de détention lorsque l'amende n'est pas payée, ou souvent également des peines de travail d'intérêt général. L'idée, c'est que la justice soit très réactive sur ce type d'infraction particulièrement sensible sur ce territoire.
Monsieur le procureur, dans quelques jours auront lieu les audiences solennelles de rentrée au tribunal de la Cour d'appel, du tribunal de première instance. C'est un moment important pour la justice parce qu'elle permet de donner le « là » en quelque sorte de l'année, de faire le point aussi sur les statistiques. C'est vraiment une des semaines ou des moments importants pour la mise en route, on va dire, de l'appareil judiciaire.
Il est toujours important pour une juridiction de faire le bilan de son action et puis de tracer les perspectives. Avec des bonnes nouvelles, notamment sur le terrain des ressources humaines. Vous les entendrez à l'occasion de ces audiences, tant pour le siège que pour le parquet. Et puis, des évolutions dans notre organisation, des évolutions dans nos actions pour effectivement répondre aux attentes des justiciables, que ce soit en matière civile ou en matière pénale.
Yves Dupas, procureur de la République, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous.